Chapitre 14e. J'étais depuis peu à Paris lorsque je rencontrai Guégan. Cet ami qu'après mon évasion j'avais trouvé si accessible, si bon, si compréhensif, je le trouvais à présent, quand je pensais à lui, falot, fourbe, d'une petitesse extraordinaire. Il ne s'était rien passé entre lui et moi. Je me disais qu'il fallait que je lutte contre cette tendance à interpréter tout silence, toute absence, comme hostile. En le revoyant, je lui découvris de nouveau un air sympathique, bon, compréhensif. Il me demanda ce que je devenais. Au fond, je regrettais d'être parti de chez lui. Je lui dis que j'habitais une petite chambre d'hôtel, que j'y étais très mal, qu'on commençait à s'étonner que je trouvasse toujours un prétexte à ne pas remplir ma fiche. Mais je me gardais bien de lui dire que j'avais acheté des faux papiers, que je ne m'appelais plus René de Talouet, mais Raoul Tinet. Je tâchais de lui faire comprendre combien j'aurais été heureux de retourner chez lui. Je manquis de la santé de sa mère. Guégan s'était-il remis au travail maintenant que l'atelier était libre? Il ne paraissait rien deviner de mon désir. Après tout, c'était naturel. Et au fait, voulais-je réellement retourner chez lui? Nous avons souvent tendance à désirer des choses parce qu'elles se présentent simplement à nous, et non parce que nous les désirons vraiment. Quelques jours plus tard, il me demanda de l'aider à préparer une exposition. Cette marque d'amitié me causa une grande joie. J'avais beau sentir qu'il ne ferait jamais rien pour moi, dès qu'il faisait un geste vers moi, j'oubliais mes griefs. Car j'avais peur de tout, peur qu'on ne changeât à mon égard, peur de perdre des amis, et la gentillesse me touchait infiniment. Quand l'exposition fut terminée, je retournai quand même voir Guégan. Je ne sais rien de plus déprimant que de revenir quand on n'est plus utile, quand on a été remercié longuement et qu'il n'y a plus rien à faire. Je demandai chaque fois à Guégan s'il avait quelque chose pour moi. Un jour, il me proposa d'aller habiter en banlieue chez une ancienne couturière de sa mère. C'était, d'après lui, exactement ce qu'il me fallait. La villa, quoique isolée, était entourée par d'autres villas, ce qui créait un certain va-et-vient et rendrait ma présence moins suspecte. Ce n'était pas du tout l'atmosphère de province. Comme cette dame était assez âgée, on lui apportait ses provisions à domicile. J'expliquai à Guégan que je n'avais pas de carte d'alimentation et que je ne pouvais songer à bénéficier d'un pareil traitement de faveur. Il ne répondit pas. Il me dit que je tiendrais compagnie à cette dame. J'élevai de nouvelles objections. Guégan commença à montrer de l'humeur. Si j'agissais avec tout le monde comme j'agissais avec lui, je me ferais des ennemis. Il tenait à m'en avertir. Bientôt plus personne ne s'occuperait de moi. À quoi je faillis répondre que précisément, je n'étais pas le même avec tout le monde. Je me radoucis. Pour ne pas avoir l'air de me forcer à aller chez cette dame, Guégan me reparla gentiment des avantages que j'y trouverais. Je ne manquerais de rien. Je pourrais faire de jolies promenades dans les environs. Si je désirais vraiment être tranquille, je ne trouverais pas mieux. Il s'agissait de savoir si je tenais vraiment à me cacher, ou bien si je cherchais à m'amuser. Auquel cas, bien entendu, il était inutile d'insister. Je sentais que Guégan trouvait extraordinaire que je fusse aussi difficile, alors que c'eût été plutôt à cette dame de l'être. J'étais tellement agacé par ce faux intérêt que je me mis à poser une foule de questions à Guégan. Était-il certain que personne ne s'apercevrait de ma présence? La villa appartenait-elle à cette dame? Qui recevait-elle chez elle? N'y avait-il pas autour d'elle des querelles d'intérêt? Ne risquerais-je pas de passer de l'avis de certains pour un mauvais conseiller? Comment se faisait-il qu'elle m'hébergeât alors qu'elle ne me connaissait pas? Guégan répondit patiemment à chacune de mes questions. Mais je trouvais toujours autre chose. À la fin, il me dit « Tu seras mieux de toute façon qu'à ton hôtel. » Je lui répondis que là n'était pas la question. Il m'agaçait de plus en plus à me vanter cette vieille dame, que je le sentais bien, il ne connaissait que très peu. « Mais où iras-tu si tu ne vas pas là ?» Cette question me froissa. Je répondis que je trouverais toujours, que j'avais bien trouvé jusqu'à présent. « Dans ces conditions, n'en parlons plus, » dit-il. Il m'apparut alors que je n'étais pas dans une situation où je pouvais me permettre d'avoir l'air de faire le malin. j'avais un peu trop tendance à perdre de vue la réalité. Quoique cela me coûtât beaucoup, je fis marche arrière, je m'excusai, je demandai qu'on me pardonnât, car il devait comprendre que dans l'état où je me trouvais, je n'étais pas toujours maître de moi. Mais lorsque je l'eus quitté, je n'allais plus le revoir.